Europe 1, 15h-16h,
samedi en France.
William Lémergie.
Bonjour à tous. Et oui, nous voilà en janvier 2022, c'est ça. Soyez les bienvenus. Nous sommes, comme vous l'avez deviné, le 1er janvier. Et toute l'équipe de Samedi en France, avec Marie Jacquet et Christophe, vous souhaite une très belle année. Alors, je vous la souhaite douce, je vous la souhaite joyeuse cette année, dans laquelle on prononcera, j'espère, le moins possible le mot Covid. Pourquoi ? Bah parce que j'espère que cette maladie sera en partie éradiquée. Oui, je sais, c'est un vœu pieux, mais enfin bon, je me devais de vous le dire. Alors, voici comme d'habitude quatre sites remarquables en France que nous soumettons à votre curiosité. Alors, vous savez que cette émission, c'est une manière de vous faire découvrir notre pays au moment où c'est toujours pas très facile de se déplacer à l'étranger. Alors, si vous voulez être dépaysé, visitez votre pays, c'est-à-dire la France. Alors, c'est pour cela qu'on va vous présenter des lieux qui se situent, c'est important aussi, hors des sentiers touristiques traditionnels. Par exemple, aujourd'hui, vous découvrirez un chef-d'œuvre de l'architecture militaire unique en Europe. Ça se trouve dans les Pyrénées orientales. Et juste après, direction les Alpes-Maritimes, dans une confiserie, pas comme les autres, où l'on travaille les fruits et les fleurs, parce qu'on n'est pas loin de Grasse. Et puis, nous vous emmènerons également en Ariège. Je ne sais pas si vous connaissez ce département et cette région, pour vivre une expérience en plein air, comme si vous étiez en Laponie, c'est vous dire. Mais d'abord, on va commencer avec Monsieur Gavin, ce Clémenté Ruiz du Guide du Routard, qui en janvier aussi continue de nous aider à découvrir ces lieux. Alors, on commence par un site insolite, on l'a qualifié ainsi, situé dans le Morbihan, et on va à la rencontre de celui qu'on en appelle, alors on va vous dire pourquoi, le poète ferrailleur. Alors d'abord un mot sur le Morbihan et ensuite qui est cet artiste qui nous intéresse aujourd'hui, Gavis.
Bonjour William, bonjour à tous et bonne année, en effet, ouais. Vous avez raison. On espère que tout ira mieux. Alors on va commencer avec ce poète ferrailleur dans le Morbihan. Le Morbihan, c'est en Bretagne Sud, avec Vannes pour préfecture. Et nous allons à une cinquantaine de kilomètres au nord de la ville de Lisieux.
Alors pourquoi l'artiste qui nous intéresse se fait appeler le poète ferrailleur ? Je suppose qu'il travaille le métal, non ? Mais à part ça ?
Bah à part ça, il se définit comme un sculpteur de mouvement. J'aime bien, ce sont ses mots, j'aime bien le terme. Et l'ensemble est assez poétique, c'est vrai. Il s'appelle à l'état civil Robert Coudray et c'est grâce à lui que vous allez pouvoir déambuler dans un grand jardin entre des créatures de métal très colorées qui usent de la force du vent, mais aussi du soleil et de toute autre énergie.
Ferrailleur, donc ça j'ai compris. Poète ?
Bah poète parce que avec ses horloges à eau, ses manèges, sa maison écologique ou encore son grand projet de cathédrale, il nous fait rêver à sa manière et vous ne serez pas déçu du voyage.
Bon, pour en savoir un petit peu plus, le plus simple c'est d'en parler avec Robert Coudray, tout simplement. D'ailleurs, il est en ligne. Bonjour Robert.
Et bonjour William.
Alors, on va commencer par le début, comme on dit à la radio. Vous vous définissez comme un poète ferrailleur, on l'a dit. Est-ce que ce que nous avons dit est suffisant ? Car après tout, vous avez tellement fait de choses différentes dans votre vie que je ne sais pas par où commencer.
Bah, on m'a appelé comme ça, donc le terme est resté. Effectivement, il y a eu plein de métiers, mais la poésie, c'est le fait de vivre une intimité avec ce qu'on fait, c'est-à-dire en osmose avec ce qu'on fait, d'aller au bout de ses tripes, voilà. Et j'essaye avec la sculpture, avec l'écriture, avec le cinéma, de donner du meilleur de moi-même.
Ah oui, on en reparlera tout à l'heure de cinéma aussi. Alors, cet immense jardin, là, vous avez mis combien de temps pour faire cet ensemble de sculptures, sculptures et autres constructions, hein ?
Ça fait 30 ans que j'ai commencé, 32 ans exactement. Et puis ça continue, j'ai 60 quelques années, 66, et j'en ai encore pour 30 ans de travail, je pense.
Oui. Mais est-ce que, tiens, c'est vrai, quand je dis ça, parce que moi j'ai des photos, on voit une partie de vos œuvres sur ce terrain, mais est-ce que vous avez la place d'en faire d'autres ?
Bah, oui, parce que les plus petits objets font 1 mètre et les plus grosses font 6 mètres de haut. Donc, et les tours, la plus grande fait 13 mètres. L'année prochaine, j'en fais une de 24 mètres. Ah. Ce sera une tour Eiffel revisiter à ma manière. Mm-hmm. Donc voilà.
Mais vous avez toutes les autorisations nécessaires de la part de la commune qui vous considère comme qu'un ambassadeur. Oui, ça va.
Maintenant, au début c'était un peu délicat, maintenant ça fait partie du secteur, donc, et ouais. Puis c'est des sculptures, donc on a le droit de faire des sculptures.
Est-ce que toutes vos réalisations sont en grande partie en métal ou pas ?
Non, le métal c'était, à l'origine je l'ai dans la décharge publique qui était au bord du ruisseau, donc je récupérais du métal, je les soudais, et puis c'est devenu un principe de récupération d'abord économique et puis écologique. Mais si en tout, c'est du bois, c'est du métal, c'est des objets.
Moi, je vois des photos. Effectivement, il y a du mouvement parce que les maisons, là, je vois une maison, mais elles bougent, si j'ose dire. On sent bien qu'il y a une créativité assez folle. C'est totalement inspiré d'une création qui est effectivement poétique, mais au fond, ça ressemble à rien de connu, hein, tout ce que je vois là.
On compare souvent à Tim Burton, Facteur Cheval, machin.
Bon. Alors Facteur Cheval, ouais, peut-être. Non, Tim Burton, oui, vous avez raison, parce qu'en plus, c'est en couleur.
Moi, je ne me prends pas la tête, je fais ce qui me vient dans les tripes et j'ose, j'ai envie d'audace, donc à un moment donné, j'ai envie de me faire plaisir comme un enfant qui invente son jouet.
Oui, c'est ça, mais c'est très enfantin, ouais. C'est vrai, c'est joli.
Et ce qui me passionne, c'est surtout de toucher les gens, c'est-à-dire qu'ils sortent de là, c'est ce qui se passe souvent, qu'ils ont envie de faire de leur vie le meilleur.
Et combien de temps il faut pour visiter l'ensemble? Je ne sais pas comment vous l'appelez, un jardin, un parc
Un univers du poète Ferrailleur. Ouais. Il faut entre minimum 1h30 jusqu'à 3h.
Ok, alors vous avez fait des études de cinéma, c'est peut-être le moment d'en parler, et vous avez fait des films, et il paraît qu'il y en a un qui va sortir bientôt, et il raconte quoi ces films-là, et le prochain ?
Ouais, le prochain c'est Heureux les fêlés, qui sortira en octobre 2022 sur les écrans, et il parle toujours de l'idée de personnes qui vont au bout de leur rêve, qui prennent des gamelles et des tas de problèmes, mais qui continuent, quoi qu'il leur arrive, même au bout du rouleau, et ils voient la lumière et ils marchent. Ça parle de ça. Heureux les fêlés, c'est ce sujet-là.
D'accord. Alors, est-ce que le lieu, là, cet endroit, est signalé officiellement par les autorités? Est-ce qu'il y a une plaque en disant, par exemple, direction dans 20 km, 2 km Il y a ça, hein?
Oui. Bon. Tapez Poète Ferrailleur n'importe où, vous le trouvez.
Voilà, truc Poète Ferrailleur, et c'est marqué sur le panneau. Non, je dis ça parce que sinon on aurait influé auprès de la préfecture. Non, on a le bras long.
Non, vous inquiétez pas.
Vous êtes loin du golfe du Morbihan?
On est à une demi-heure.
Une demi-heure. Non, je dis ça parce que pour les gens qui viendront voir vos œuvres, ils peuvent aussi aller jeter un coup d'œil au golf, qui est un lieu tout à fait remarquable et unique en France. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, Robert.
Et belle année joyeuse à vous.
Oui, allez, belle année revoir. Joyeuse. À vous également. Alors, Gavins, ça coûte combien de visiter ce beau jardin ?
Eh bien, ça coûte 7,50 € par personne. Et il faut prévoir, c'est à partir du mois d'avril qu'on pourra le visiter au beau jour et jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à novembre 2022. Bref, c'est un beau programme.
Alors, ce qui est intéressant, si vous y allez là, c'est que vous pouvez y retourner l'année suivante parce qu'il aura émis de nouvelles œuvres.
Exactement,
c'est en évolution.
Ça bouge tout le temps. Ouais, ça bouge tout le temps. Quand on le voit, on sait qu'on ne le verra qu'une fois. Et c'est presque éphémère parce que ça bouge constamment.
Oui, alors c'est intéressant parce qu'il parle du Facteur Cheval. Nous aussi, grâce à vous, Gavis, on a déjà parlé des œuvres du Facteur Cheval. Il n'y en a pas beaucoup en France, des parcs comme ça, avec des sculptures de ces artistes étonnants.
Et rêver en début d'année, c'est quand même un beau programme.
Si on se déplace, on va où pour manger ou dormir ?
Alors, un hôtel-restaurant, ça s'appelle le Petit Quéricel, c'est à la Chapelle Carreau. On est à 70 km du Poète Ferrailleur, c'est dans un hôtel de village transformé en maison de famille que j'adore. On pose ses valises, on va se faire plaisir. C'est 70 € la nuit, 16,90 € le menu à midi, en semaine, au resto, bref, le bon plan.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France. William Lémergie.
Le site dont il va être question maintenant dans cette émission Samedi en France, on en a parlé dans le Guide du Routard et c'est même là que j'ai découvert son existence. Alors Guide du Routard, je vous le rappelle, c'est la maison mère de mon voisin là, Gavins Clémentérus, qui est très bien. Vous allez aller au tableau là, hein, qui va vous dire maintenant où nous sommes. Nous sommes, et pourquoi ce qu'on vous propose de visiter, écoutez bien, ça n'a pas son équivalent dans toute l'Europe.
Exactement, je vous emmène en promenade à Sals, c'est dans les Pyrénées-Orientales, c'est à 20 minutes au nord de Perpignan, pas loin de la mer donc, et c'est là que se trouve la forteresse de Sals. Mmh. Cette forteresse, c'est un bâtiment qui reflète parfaitement ce qu'on appelle l'architecture militaire, et qui, vous l'avez dit, est unique en son genre.
Alors, il faut expliquer ça, unique, pourquoi ? Parce que... en France, quand même, on a pas mal de fortifications, hein, ne serait-ce que celles qui ont été signées de Vauban, par exemple.
Oui, mais là, William, nous sommes bien avant, parce que c'est le premier spécimen de fortification rasante.
Rasante.
Ce qui veut dire que l'on observe au loin, mais sans être vu de loin. C'est pas mal.
Oui, si ça marche, c'est bien. Oui. Qu'est-ce qui a construit cette forteresse ?
Alors, ce sont les rois catholiques espagnols. C'était à la fin du XVe siècle pour défendre le royaume d'Aragon qui était situé en partie dans cette région.
Ah oui, c'est vrai, qui était à cheval.
Exactement, avec un système défensif extérieur et intérieur. C'est ça qui est intéressant. Mmh. C'est l'architecte Ramiro López qui a fait construire des murailles, imaginez, de 12 mètres d'épaisseur à la base, ce qui explique qu'elle était vraiment ou quasiment indestructible. Mmh. Les Français l'ont assiégée à 3 reprises. Ils ont fini par y arriver. Et plus tard, Vauban, encore lui, peut-être jaloux, a essayé de la détruire, mais ça coûtait trop cher.
Ouais. Il s'en est mêlé, lui aussi.
Et il n'a pas réussi. Donc, elle a été transformée en prison.
Ah, d'accord. Bon, on va en savoir un peu plus, puisque nous sommes en ligne avec Liberté et Martin. Bonjour, vous êtes en charge des actions culturelles de la forteresse de Sade, c'est bien ça ?
Oui, bonjour tous les deux. En effet, je suis en charge des actions culturelles et j'ai adoré écouter Gavin. En effet, je crois qu'il a tout dit en fait sur la forteresse.
Non, vous allez voir. Je peux vous appeler Liberté, c'est votre prénom ?
Mais vous pouvez, William, si vous voulez. Oui, je ne peux pas vous dire que je m'appelle autrement. Oui, en effet, Liberté, je travaille dans une forteresse, c'est paradoxal. Hein.
Ça ne pouvait être que votre vocation de travailler dans une forteresse.
Le chemin était tracé.
Alors pourquoi est-ce que cette forteresse, puisqu'on a dit que c'était à l'époque du royaume d'Aragon, pourquoi elle a été construite à cet endroit-là ?
Alors moi je donnerai 3 raisons pour protéger, contrôler le passage de la frontière et surtout la présence des sources qui étaient indispensables pour tenir le siège.
Ah d'accord.
Et j'insiste sur ce fait, c'est qu'en fait, les rois catholiques, quand ils vont demander à Ramiro López de construire la forteresse, il fallait que le siège puisse tenir 30 à 40 jours. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est que la présence avec les soldats de 1500 hommes et d'environ 300 chevaux en temps de siège, il fallait vraiment avoir de l'eau. Et la présence des sources, même qui coulent encore aujourd'hui, existantes, permettait de tenir... Voilà.
Ça veut dire qu'au moment où il a construit ça, l'architecte et les rois d'Aragon en même temps, ils se disent forcément on va être assiégé un jour, autant être dans un endroit où on va pouvoir se défendre pendant longtemps. C'est ça l'idée, quoi.
Exactement. Ils ne savaient pas combien de temps les sièges pouvaient durer.
Ouais.
Ça pouvait durer 3-4 mois. Et surtout, ce n'était pas en période, je dirais, hivernale, mais plutôt en été, où les jours étaient plus longs. Donc, ils pouvaient tenir le siège un peu plus de la journée. Et donc, en fait, la région, mais c'est vrai qu'il fait quand même un peu chaud. Donc, aller tenir un siège avec des chevaux qui courent la campagne pour repousser les troupes...
C'est pas simple.
Et non, non.
Alors, mais c'est quand même étrange parce qu'il est magnifique ce bâtiment, en plus il est en très bon état. Hein. Quelle était l'idée qui a prévalu à l'époque quand on a construit un tel ouvrage ?
Alors le fait qu'elle soit unique, le fait qu'elle soit construite dans partie basse, utiliser tous les matériaux de proximité, parce qu'il faut savoir, je fais écho à ce que disait Gavin, c'est l'état de conservation, mais le court terme pour la construction, ça n'a nécessité que 6,5 ans de construction. Ça a coûté assez cher. Et le fait de la construire là pour protéger le passage, et comme l'a dit, c'était entre deux territoires, France-Catalogne, France-Aragon, voilà, qui viendra par la suite l'Espagne.
Et oui, ils ont récupéré le truc après.
Se sont frottés les mains, ils ont dit « Oh, c'est sympa !»
Et
quoi.
Mais quand on s'appelle Aragon, c'est pas français. Oui. Hein, après tout, il avait raison. Hein, mais alors, ce qui est bien, c'est que c'est le coup de l'architecture rasante, c'est-à-dire c'est assez bas. Oui, mais quand on est sur les terrasses, moi j'ai la photo là, on a une vue magnifique sur les paysages catalans. Hein.
Alors, deux fois plus magnifique, mais interdit au public. Mais nous, on y va pour des raisons simplement de contrôle et tout. C'est qu'on peut monter sur la tour de l'homenage, comme ils disent, la torre de l'homenage. C'est la tour de l'hommage et le donjon, en fait. Et ce donjon, on a 360 degrés de vue panoramique.
Et oui.
On va commencer par les corbières. Sur la droite, on a les étangs qui étaient proches de la forteresse, puisque les étangs arrivaient au niveau du chemin de fer actuel. Et ensuite, quand on fait un tour, on a cette vue magnifique sur le Canigou, les Aspres, le Val-Espire et la frontière depuis 1759, le col du Perthus.
Oui, mais ils sont pas gourés. Hein. C'est une situation. mais c'est une situation stratégique hein, pour les pour les rois catholiques espagnols de l'époque. Hein, franchement.
Complètement.
On peut pas faire mieux.
Et cela dit, non, je dirais, je fais écho à Vauban, ce que vous parliez tout à l'heure,
parce que lui
aussi,
alors...
il va construire aussi dans des territoires entre plusieurs, je dirais, passages. Mm. Et donc, il va peut-être utiliser ce que ses pères ont fait auparavant.
Mm-hmm.
C'est intelligent, hein.
Mm-hmm. Mais il s'est peut-être inspiré de ça. Ça, oui, c'est possible.
On pense.
Ouais, pourquoi
on
pas.
Pense fortement.
Mais pour avoir toute la dimension de la forteresse, parce que quand on le voit comme ça, effectivement, elle est assez basse, mais il faut savoir, c'est qu'il y a les parties basses en dessous, quoi, en dessous des murs que je vois là.
En effet. Au niveau d'un siège et au niveau militaire, bon, c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout raconter. Il faut que vous veniez, hein, d'ailleurs, Gavinet.
Oui, bien sûr.
Et William. Hein. Mmh. Et en effet, vous avez donc la partie basse et en dessous, vous avez des écuries. Et à côté, jouxtant ces écuries, nous avons des galeries de contre-mines qui étaient faites pour pouvoir contre-attaquer le travail de sape, parce que ce travail de sape n'a pas été fait que à la construction de la forteresse. Le travail de sape pour pouvoir assiéger un lieu était, je dirais, bien avant le 15e, je dirais, mon Moyen-Âge.
Mmh.
Donc, ils essayaient de détruire une partie des fondations pour pouvoir se frayer un chemin.
Et c'est
d'ailleurs,
ça.
C'est ce qui va se passer.
Faire un trou dans le mur, quoi. Oui.
Alors, mais il fallait faire le trou, il fallait de la poudre, quoi.
Mais oui, bien sûr, il fallait faire péter tout ça.
Complètement.
Alors, vous êtes en charge, Liberté, des activités culturelles de la forteresse. Qu'est-ce que vous proposez aux visiteurs de tous âges, en plus du paysage et
alors,
de cette magnifique construction?
Plein de choses. On commence par les plus jeunes, on a élaboré un petit jeu, un jeu de piste, où c'est qu'il faut trouver des énigmes, et ça va de 6 à 12 ans.
Mmh.
Ils n'ont pas les portables, donc c'est format papier. Donc il faut qu'ils trouvent qui a assommé le gouverneur, parce que le gouverneur s'est fait assommer, et il faut trouver qui a assommé le gouverneur. Donc il y a des indices, une espèce de cluendo grandeur nature.
Très bien.
Pour les 13 familles et plus grands, on a élaboré avec la Société Atlantide et le CMN, le Centre des Monuments Nationaux, mm-hmm. qui gère la forteresse, on a élaboré un jeu géolocalisé, piège à la forteresse. Là, il faut les portables. Et là, encore une fois, c'est des énigmes. C'est des il faut répondre aux questions.
Mm-hmm.
Et Lucas va être le maître du jeu qui va vous aider à trouver des solutions. Alors, je ne donne pas les solutions parce qu'il faut venir sur place.
Très bien.
Mais
très
voilà.
Bien.
Et pour les parents, il faut pas les oublier, on a une super salle d'exposition avec une table numérique. On a aussi la BD en exposition, 12 planches de BD dans le corps de logis. De quoi redonner, imaginer la forteresse en temps de siège avant, après, des planches qui sont vraiment parlantes sur la forteresse. Et la visite, n'oubliez pas.
Ah oui, oui, bien sûr.
Le meilleur pour la fin.
Ça prend du temps, tout ça, quoi. On passe presque une journée, c'est pas Disneyland, mais on peut rester longtemps, hein.
Oh, c'est mieux que Disneyland.
Ah oui, c'est beaucoup mieux.
On a même, en cette période-là, on a même des chocolats à offrir aux petits et aux grands, donc vous voyez.
Merci beaucoup, Liberté. Est-ce que je peux être indiscret?
Dites-moi.
D'où vous vient ce joli prénom?
Alors, je ne peux pas le renier. C'est mon père qui était républicain, anarchiste, et qui s'est battu. Donc voilà, il a laissé des traces.
Et les traces, c'est vous.
Alors, c'était très dur au début de porter ce prénom, parce que l'histoire, on est ado ou pas.
Vous n'êtes pas nombreux à porter un aussi joli prénom, franchement.
Je suis aussi unique que la forteresse.
Et voilà. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces informations.
Au revoir à tous les deux. Merci. Et très, très bonne fête à vous. Au revoir à tous les
bonne
deux. Bonne
fête.
Journée.
Bonne journée vous à vous.
Aussi.
Merci.
Au revoir.
Alors, Liberté, comme elle vient, vous vous rendez compte que quand on a un prénom pareil...
Qu'est-ce que c'est beau.
La force
du prénom, je sais de quoi je parle.
Oui, bah, vous, c'est Gavit. Alors, c'est autre chose, ça serait plus long à expliquer, hein. Quoique. C'est ouvert toute l'année ou pas?
Oui, alors en ce moment, c'est ouvert de 10h15 à 12h45 et de 14h à 17h15. Ça coûte 8 euros et ça ouvre un peu plus tard, en haute saison, bien entendu.
Pour manger, dormir
Eh bien, à Sals même, dans le centre-ville, à 10 minutes à pied de la forteresse, vous avez le Café de la Loge. Alors, c'est dans une salle 19e siècle avec les moulures, les miroirs. J'aime beaucoup. Ça change des pierres de la forteresse.
Alors, il faut expliquer ça à nos amis qui écoutent Europe 1 le samedi après-midi à cette heure-ci. C'est que tout ce que l'on vous propose pour dormir, pour manger. Ça a été testé par les enquêteurs du Guide du Routard.
Hein. Exactement.
On ne vous dit pas ça en prenant la liste des propositions qui
Non. C'est tous mes collègues, mes chers routards, qui ont testé et approuvé en allant manger sur place, par exemple, là, au Café de la Loge, à Sals, cette cuisine catalane. Et donc, ils ont écrit des textes. Et aujourd'hui, je suis là pour me faire le porte-voix du Routard. Et donc, aujourd'hui, je parle de la morue à l'aioli que mon collègue a testée. Il avait aussi bien aimé la tapenade qui change régulièrement selon l'inspiration du chef.
Bien,
une petite formule déjeuner à 17,50 €. Bah, c'est au Café de la Loge, à Sals. Pas mal.
C'est vraiment bon marché.
C'est toujours bon marché. Le bon rapport qualité-prix, c'est la marque du Routard.
Europe 1, 15h-16h. Samedi en France. William Lémergie.
Petit rappel des épisodes précédents. Dans cette émission, nous tâchons de découvrir avec Gavins, Clémenté Ruiz du Guide du Routard des lieux symboliques en France, symboliques d'un savoir-faire. Alors aujourd'hui, une grande maison qui fête que ses 100 ans. Alors, où sommes-nous ? De qui s'agit-il, Gavins ?
Alors, nous sommes sur la Côte d'Azur, plus précisément dans les Alpes-Maritimes, dans le village de Pont-du-Loup. On vous propose de visiter l'une des meilleures confiseries de la région,
oh,
si ce n'est
peut-être,
plus.
Oui,
ah,
oui.
Si, je vous jure.
Au-delà de ça, même.
Ah oui, carrément.
Non, parce que moi, j'ai goûté, là.
Ah ouais, j'ai bien vu que vous aviez goûté.
Et il y a des choses que je ne savais même pas que ça existait. Hein.
C'est fou, non ?
Ah non,
c'est bon.
Ben, il n'en reste plus, là,
ouais,
je peux vous dire.
Dépêchez-vous. Nous sommes à 13 km de Grasse, au pays des Violettes, et pas loin de Saint-Paul-de-Vence.
Alors, cette maison-là, bien sûr, c'est une institution, mais pas seulement. Je disais, dans toute la France, ils ne sont pas nombreux à faire ce genre de produit excellent. Là.
Non, c'est vraiment une maison familiale qui a fêté ses 100 ans en 2021. Et c'est ce qui m'a plu dans cette maison, c'est qu'elle n'est pas une confiserie comme les autres. Elle travaille les fruits, elle travaille les fleurs, comme la violette, bien sûr, on l'a dit. Mais il y a aussi du jasmin, il y a du cédrat, il y a la rose, il y a la verveine. Des produits originaux qui sont transformés en bonbons, tout simplement. Là, je vois que vous aimez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ça, William.
Mais je connaissais pas, donc voilà.
C'est pas mal, non ?
Merci à la nouveauté.
On trouve aussi, bien sûr, les classiques, les marrons glacés, les truffes en chocolat, c'est la période. Vous serez pas déçus quand vous irez visiter la maison Florian, qui dispose d'un autre atelier à Nice, cette fois. Donc, si vous descendez dans la région, vous trouverez tout ce que vous voulez si vous vous promenez dans le coin.
Et puis, la balade, en plus, c'est pas détestable.
Non, c'est assez agréable.
D'aller du village de Pont-du-Loup jusqu'à Nice. Vous pouvez même vous arrêter en route. Pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec Frédéric Fuchs, le directeur de la confiserie. Bonjour Frédéric, bon anniversaire à la maison. Hein.
Merci, bonjour William, merci.
Alors, 100 ans d'existence, c'est incroyable ça. 100 ans d'existence, c'est un gage de qualité, hein, parce que si ce n'était pas terrible, ça n'aurait pas existé si longtemps. Alors, si j'ai bien compris, ce sont les fleurs, c'est dans l'ADN de votre famille ?
Oui, en fait, nous sommes donc dans le pays de Grasse. En fait, Tourette-sur-Loup, c'est pas loin de Grasse. Grasse, c'est le pays des fleurs, puisque c'était la ville des parfums. Donc, ils ont cultivé beaucoup de fleurs. Et à la génération de mon grand-père, ils ont commencé à transformer les fleurs en confiserie, notamment les violettes de Tourette, les roses de Grasse, la verveine aussi qui pousse à Grasse, et toutes ces fleurs qu'on les transforme en pétales cristallisées.
Avec des recettes inventées par votre grand-père ?
Tout à fait. Alors, certaines recettes sont des recettes encore plus anciennes, mais notamment les recettes de fleurs au sucre sont des recettes du grand-père, et certaines aussi de nos confits de fleurs sont des recettes soit du grand-père, soit même de moi-même qui ai créé des nouveautés depuis.
Ah bon ?
Oui, on a fait récemment, l'année dernière, un confit de lavande et un confit de verveine.
Un confit de verveine, un confit de...
C'est un voyage.
Je vois pas. Oui, non, on viendra que pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir quand on fait la visite de l'établissement, là ?
Alors, l'établissement mère qui se trouve à Pont-du-Loup, c'est un petit village. Là, les clients, on les reçoit toute l'année pour faire des visites. Alors, il y a des ateliers de fabrication. On voit notamment le travail du fruit confit, qui est donc, on fait le glaçage des fruits confits. On voit la production de fleurs cristallisées. Donc, on reçoit des fleurs fraîches selon les saisons. On reçoit différents types de fleurs et on les poudre de sucre et ensuite on les met dans un bain de sucre candi pour obtenir des fleurs cristallisées. Donc ça, on le voit en direct, vous voyez, quand on visite la fabrique.
Non, je voulais dire aux gens qui ont du diabète, n'essayez pas les gars.
Parce que le diabète, sucre... c'est pas recommandé, vaut mieux aller vers le chocolat quand on a du diabète.
C'est parce que c'est du sucre avec un peu de sucre. C'est rudement bon. Hein. Et y a aussi la visite du jardin aussi, non ?
C'est ça, c'est-à-dire sur le site de Pont-du-Loup, on a aussi 2000 m² de jardin. en restanque, où on voit de la production de verveine, mm-hmm. de rose, de jasmin, et également des agrumes. On a une collection d'agrumes avec des agrumes originaux comme la bergamote, oui. le cédra, après il y a les plus classiques comme le pamplemousse, etc.
Et vous en faites là aussi des petits bonbons cristallisés, ça, avec ça ?
Alors le bonbon cristallisé, les petits bonbons au sucre, eux, sont fabriqués avec juste du sucre, de l'eau et de l'arôme, en fait. Voilà.
D'accord.
Donc ça, on voit la fabrication complète de la cuite. Ça amuse beaucoup les enfants parce qu'ils voient la fabrication complète de ces petits bonbons acidulés.
Ils ont le droit, les parents ont le droit d'acheter les bonbons après, ou oui ?
Alors non seulement ils peuvent goûter après la visite, ou même avant la visite, et après, bien sûr, la visite se termine par un espace de vente où là, ils peuvent déguster nos spécialités et les acheter aussi.
D'accord.
Sur place.
Alors ça, c'est pour une boutique, voilà. Mais il y a aussi, qu'est-ce que c'est que la boutique du chocolat ? Vous faites ça aussi ?
Alors à côté de Pondulou, nous avons aussi une boutique, parce que la marque Florian, c'est une marque qui a commencé en 1921 sur le port de Nice, et c'était une chocolaterie. On a mis en avant sur Pondulou l'histoire de la marque, en fait. Et donc là, on a aussi une chocolaterie dans laquelle on fait des produits, bien sûr, plus axés sur le chocolat, des grandes plaques de chocolat avec des incrustations de fruits confits dedans.
Ah oui, j'ai vu ça.
De gingembre, voilà.
Ah oui,
voilà.
C'est pas mal ça. Le coup du gingembre enrobé de chocolat. Chocolat noir, voilà. Chocolat au lait.
Chocolat noir.
Ouais, oui, j'ai vu ça.
Fait. Vous n'avez pas fait que voir, William.
Non, j'ai pas fait que voir.
Voilà.
Non, mais il faut tester. Ben oui, parce que sinon, on ne sait pas de quoi on parle. C'est du professionnalisme, Frédéric. Sinon, ce n'est que ça. Vous pensez bien.
Oui.
À Nice aussi, on peut visiter les lieux, on peut envoyer des auditeurs là-bas.
Tout à fait. Voilà, à Nice, il y a une visite guidée également toute l'année. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7. Et là, on visite donc les ateliers où, pareil, il y a la fabrication de petits bonbons. Il y a une belle chocolaterie, donc on voit la fabrication des chocolats, fabrication aussi des glaçages, des fruits confits.
Ouais,
et aussi
bien.
Un espace de vente à l'issue de la visite.
Mais alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut bien que chaque membre de la famille, au fil des années, trouve une idée. Là, je crois que vous avez de nombreux projets pour cette nouvelle année. Vous allez créer encore de nouvelles choses qui vont se manger.
Absolument, parce que nous étions déjà chocolatiers et confiseurs.
Oui.
Et là, nous allons faire une biscuiterie. Donc
voilà,
l'établissement vient d'ouvrir, c'est-à-dire qu'on crée pour cette année des produits comme les panettones qui sont aux fruits confits. On fait des cakes. Vous voyez, on fait du pain d'épices, on va créer aussi des meringues à la violette, à la rose, au chocolat. On va faire des friands, des madeleines, vous voyez, tous ces bons petits produits.
Oui, mais
ce
qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que le panettone, c'était une exclusivité de vos voisins italiens.
Voisins,
et on se dit de faire ça en France, c'est pas plus mal, je trouve, finalement, le panettone français. Très bonne idée, bonne initiative. C'est bien
merci en tout cas. Oui, c'est vrai que ça a du succès, ça va avoir du succès, c'est
très
ce qu'on pense.
Bien joué Frédéric, bon, parfait.
Merci
pour la visite, bonne journée pour cette nouvelle année et à bientôt, au revoir.
Moi de même, bonne année à vous tous, merci, au revoir.
Merci. Alors Gavis, la visite, c'est gratuit ou pas ?
Visite guidée gratuite toute l'année, 7 jours sur 7, sauf aujourd'hui le 1er, et préférez les horaires de l'ouverture de l'atelier pour voir les confiseurs à l'œuvre.
Ah,
c'est
au
du
boulot,
lundi au vendredi, donc en semaine. De 9h à 12h et de 14h à 18h.
Alors dans le coin, il y a évidemment de quoi déjeuner, dîner, dormir.
Oui, alors j'ai sélectionné une petite adresse de chambre d'hôte. Ça s'appelle La Cascade, c'est à Courmes, c'est à 10 km de Pont-du-Loup. Alors c'est dans des chambres d'une ancienne bergerie au-dessus des gorges du Loup. C'est vraiment très beau, il y a un grand jardin au beau jour, c'est sympa. Ça, là, il y a le soleil d'hiver, c'est très beau.
Ils ont pensé à quelque chose de très important.
Oui. Il y a un boulodrome.
Ouais.
Hein, c'est quand même ça. J'ai bien vu que vous avez mis ça, le boulodrome. Hein,
non, mais c'est tout bête parce que dans la région, il faut qu'il y ait ça.
On se promène avec ces boules. Et il y a la piscine aussi, encore plus au beau jour. Et il y a une ambiance absolument délicieuse. C'est assez bohème, j'aime bien. On est dans le sud, c'est beau, c'est parfait pour le farniente. Il faut compter à partir de 70€ pour une nuit.
D'accord, vous aurez tous les renseignements sur europe1.fr, évidemment. Comme chaque semaine dans Samedi en France. Alors, voici maintenant un artiste, ce sont souvent des artistes que vous connaissez. Celui-ci va vous parler d'un petit coin de France où il a passé des moments inoubliables en compagnie de sa maman et de sa grand-mère. C'est dans un village de Normandie auquel il reste très attaché. Et vous allez voir qu'il en parle avec Daniel Moreau. De qui s'agit-il ? De Gérard Lenormand.
Samedi en France sur Europe 1.
Bonjour Gérard Lenormand.
Oh, bonjour.
Vous êtes né à Bénouville en Normandie, et de, je crois dans un endroit somptueux, même si ce n'était pas forcément pour de bonnes raisons, mais vous êtes né dans un château.
Oui, c'est ça, le château de Bénouville, mais qui était tenu par des sœurs et qui recevait et qui essayait de recevoir au mieux les mamans et leurs enfants qui étaient un peu en difficulté. Voilà.
Mais ensuite, donc, vous avez grandi dans un petit village normand.
Bah, j'ai été un petit peu, comment dirais-je, dans divers endroits, mais celui qui a été le plus cher à mon cœur, c'est le petit village où habitait une dame qui s'appelait Augustine Lenormand, qui était ma grand-mère et qui a été une de mes plus belles rencontres de femmes de ma vie. Voilà.
Alors, ce village s'appelle
Turqueville.
Et alors, est-ce que c'est là qu'il y a la fameuse...
Ah ben c'est le trou du de la campagne normande.
Oui.
Bon, mais cela dit, à quelques kilomètres, tu avais la mer. Le petit village de Turqueville était très, très mignon. Et il m'a accueilli pendant beaucoup d'années. Et c'est toujours un lieu où j'ai plaisir à retourner, bien que je n'ai plus grande famille là-bas.
Est-ce que c'est dans l'église de Turqueville, de ce petit village, que vous avez connu vos premiers émois de chanteur, une scène que vous racontez dans la très belle chanson « L'enfant des cathédrales » ?
Absolument, parce qu'il y avait un orgue à souffler, tu vois. Alors, j'étais haut comme trois pommes, mais j'avais compris le système et j'appuyais d'une pédale à l'autre et ça soufflait un peu et je testais ma technique musicale personnelle et inventive déjà à l'époque. Voilà.
Et alors, les paysages autour du petit Gérard, c'était vraiment la Normandie comme on peut l'imaginer, ah bah, pommiers, les...
Bah, évidemment, c'était la Normandie profonde qui avait quand même été quelque peu secouée pendant un an, deux ans, trois ans avant, parce que le débarquement s'est passé là-bas, et bon, tu connais l'histoire et tout le monde la connaît. Donc, il y avait eu beaucoup de destruction, mais ces Normands sont costauds comme pas possible, et ils sont nettoyés, balayés et reconstruits, etc. Et cette région a repris la vie très vite, parce que le courage ne manque pas dans cette région-là.
Alors, vous nous offrez un nouvel album qui porte bien son nom, Le Goût du Bonheur, parce que c'est un bonheur d'écouter ces nouvelles chansons. C'est parfois mélancolique, c'est parfois joyeux. Et puis surtout, vous vous promenez dans des univers très différents. Benabar, Vianney, Nicolas Perrac, Serge Lama vous ont écrit des chansons. Quelle chance,
que des amis.
Quelle chance et quel bonheur de vous entendre.
Ah ben, ça, c'est un grand merci. Ça me touche beaucoup. D'entendre cela me ravit.
Cet album fait du bien, donc merci Gérard de nous offrir ce nouvel album, Le Goût du Bonheur.
Merci à vous de l'avoir perçu et reçu comme tel. Ça me fait très très plaisir.
Et bonne année 2022, puisque ça y est, on y arrive, on
et
espère
bien,
qu'elle sera bonne. Merci. Merci Gérard, au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup Gérard. Facile à reconnaître sa voix Gérard. Hein. Il a la même depuis autant d'années. Alors il revient donc avec ce nouvel album intitulé Le Goût du Bonheur. Et vous allez voir, il reprend le chemin des tournées à partir de ce mois de janvier. Merci à Daniel Moreau. À la semaine prochaine avec un nouvel article.
Europe 1, 15h-16h, samedi en France.
William Lémergie.
Bon alors, une petite précision grâce à nos camarades du Guide du Routard. Nous avons trouvé une activité de plein air, comme on le fait chaque samedi dans cette émission, on termine toujours par ça, une activité à pratiquer en cette saison. Où allons-nous ?
Alors, cette fois-ci, on vous propose de vivre la vie d'un trappeur, mais inutile. En effet, pour cela, d'aller dans le Grand Nord canadien, par exemple, il suffit d'aller tout simplement, en Ariège, au cœur de la forêt d'altitude du plateau de Baye, qu'on surnomme la petite Laponie ariégeoise. C'est là que les mushers, et ce sont les hommes qui conduisent les chiens traîneaux, et les accompagnateurs du village nordique d'Angaka, on va savoir ce que ça veut dire plus tard, vont vous faire vivre l'expérience comme dans le Grand Nord, dans toutes ses dimensions. Et là, nous sommes directement en Occitanie.
Alors, comme à chaque fois dans ce genre de séquence, c'est une expérience très précise. Là, vous avez parlé de vivre comme un trappeur, c'est-à-dire...
Alors, D'abord, un trappeur, c'était un homme qui faisait commerce des peaux et des fourrures en Amérique du Nord autrefois.
En Amérique du Nord, c'est ça, Canada et Amérique.
Exactement. Souvent, il vivait dans des conditions assez difficiles. Il devait affronter le vent, la neige, le froid, les bêtes féroces aussi, comme les loups. Et c'est cet esprit, mais alors sans la difficulté, je vous rassure, William, je rassure nos auditeurs, qu'on retrouve au cours de ce séjour chez Angaka.
On n'est pas trappeur. On est trappeur amateur.
Vous n'êtes pas trappeur, je croyais. Bon. Vous allez avoir tous les avantages de l'aventure en évitant les dangers, les inconvénients que ces hommes-là pouvaient rencontrer à l'époque.
Bon, alors ça mérite d'en savoir un peu plus. Nous avons en ligne Isabelle Corbière du village nordique Angaka pour nous donner un peu plus d'informations. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour à tous. Bonjour.
Alors, deux choses pour commencer. D'abord, dites-moi, quel temps fait-il là, en ce moment ? À peu près, la neige, beaucoup, pas assez ?
Alors, comment vous dire ? Tempête de ciel bleu sur un manteau neigeux de plus d'un mètre d'épaisseur à 1800 mètres.
Ouais. Oh bah, ça va, là.
C'est grandiose. Ouais, c'est pas mal.
Alors,
on a beaucoup de chance.
Vous avez appelé votre activité Village Nordique Angaka. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
Alors oui, il s'agit d'une structure composée d'un village avec des yourtes et des tipis.
Oui.
Et Angaka, ça veut dire en langue inuite, évidemment, comme tout le monde connaît, homme qui voit plus loin. Voilà, parce qu'au plateau de Baye, on a un panorama fabuleux et le nom va très bien au lieu.
Bon, très bien, plateau de Baye. Alors, plusieurs questions maintenant qui concernent l'expérience que vous vous proposez. Ça dure combien de temps ? Ça consiste en quoi ? Par exemple, j'arrive le premier jour, qu'est-ce que vous expliquez d'abord à vos visiteurs ?
Alors, ça va durer un jour et demi et on commence la première après-midi par construire un igloo avec la technique des fameux Esquimaux, donc un igloo à bloc.
D'accord.
Voilà, ça c'est la mise en... c'est l'entrée en bouche.
La mise en bouche, c'est l'apéro quoi. Les groupes que vous recevez, il faut qu'ils soient un maximum de combien ou un minimum de combien ?
On s'adresse à tous, hein. Ça peut être des familles, ça peut être des groupes. Les groupes, c'est à partir de 6 personnes et on peut aller jusqu'à 12 personnes.
D'accord. C'est vous qui fournissez l'équipement ou il faut venir avec sa combinaison, et son bonnet, ses gants et tout ça ?
Oui, le matériel pour l'igloo, hein, c'est l'équipement de ski par excellence, bon. Bonnet, gants, doudoune, voilà.
Ok, ça on fait ça dans la journée, le soir on est dans l'igloo ou pas ?
Alors, on aime bien, suite à notre atelier de construction d'igloo, motiver des constructeurs pour y dormir le soir.
Ah.
Même si, en parallèle, on leur a réservé un espace à dormir dans une yourte ou un tipi.
Ah bon,
mais
d'accord.
Je ne vous cache pas que chaque fois qu'on a deux personnes, parce que les igloos à construire, il y a quand même 2 heures de travail pour faire un igloo pour 2 ou 3 personnes.
Oui.
Donc, on ne pourra pas faire un igloo pour 12 personnes.
Non, bien sûr. C'est ceux qui veulent, ceux qui peuvent, ceux qui en ont envie.
Exactement.
Sinon, on
peut
dormir au chaud. Dites donc, quand on dort dans l'igloo, là, on met le bonnet sur la tête, non ?
Oui, on dort avec le bonnet, mais après, là, par contre, on fournit de très bons sacs de couchage qui couvrent jusqu'à la tête.
Ah bon ?
Et on fournit moult couches qui isolent au sol et qui donnent du confort.
Non, je voulais savoir
c'est spartiate, mais pas tant que ça.
Bon,
voilà.
Je voulais savoir s'il y avait des jeunes mariés qui voulaient passer leur nuit de noces. Pas ce soir-là. Un autre soir.
alors, c'est déjà arrivé, mais c'est un grand classique d'avoir des petits couples, plus ou moins jeunes d'ailleurs, qui se font une soirée dans l'igloo. Et
bon,
qui en font un moment fort de leur histoire.
On va rester ça privé. Très bien. Vous avez dit, on peut faire aussi autre chose, c'est-à-dire qu'on fait des sorties nocturnes, flambeaux et tout ça existe ?
Oui, alors en fait, quasiment systématiquement, la soirée comprend la nocturne en raquette, qui n'est pas particulièrement sportive, parce que ce n'est pas l'objectif, mais pendant une heure, on se balade de nuit, et à un moment donné, on allume les flambeaux. Alors si vous voulez, sur la neige, la nuit est très souvent claire, donc on joue à ça, on joue à se passer d'éclairage, et à un moment donné, on éclaire les flambeaux, et tout d'un coup, c'est magique.
D'accord. Il y a des promenades qui... Alors ça, c'est pour la nuit. Mais dans la journée, il y a des promenades qui sont prévues en raquette ou autrement, quoi. Traîneau, je ne sais pas.
Exactement. Le lendemain, il y a un rendez-vous pour une matinée de raquette et un rendez-vous pour une glisse en traîneau à chien. avec mes collègues qui sont mûcheurs. Vous avez compris, c'est pas moi qui le fais, hein, c'est mes collègues.
Moi, si vous me dites que c'est pas vous, mais si ça avait été vous, j'aurais trouvé ça très bien aussi. Hein. Donc il y a des vrais mûcheurs alors.
Tout à fait, c'est des vrais de vrais. Ils ont passé un diplôme particulier pour cela. Ils ont une meute de 30 chiens pour faire deux traîneaux. Un le matin, un l'après-midi, et dans l'attelage, il y a à peu près 12 chiens.
Et quand on fait la balade en traîneau, ça me plaît, ça dure combien de temps ?
Alors, il y a deux formules. Il y a une découverte sur une demi-heure, avec 20 minutes de balade, et puis un temps de découverte des chiens, de caresses, d'explications. Et sinon, vous avez la même formule, mais évidemment plus loin, sur 2 heures. Voilà, l'évasion nordique. Là, c'est une exclusivité pour une famille pendant 2 heures de temps, de l'attelage jusqu'au départ. Enfin, c'est très pédagogique, en fait, ce que proposent mes collègues.
D'accord. Alors, une petite précision comme ça. On mange la cuisine locale, c'est vous qui vous en chargez, ou alors on va jusqu'au bout de l'expérience, c'est-à-dire c'est de la cuisine nordique avec un potage au hareng confit.
Alors là, vous me donnez une super idée, une super bonne idée. Alors, vous savez qu'avec ces temps de Covid, là, on a dû interrompre une formule qu'on aimait beaucoup, qui reprendra bientôt, j'espère. Ouais. Et effectivement, il y a un restaurateur sur le plateau qui nous fournit en tartiflette et garbure. Mais voilà, pour le moment, cette formule-là est en stand-by et les gens sont invités à faire eux-mêmes leur repas dans leur yourte ou leur tiki.
Alors, pour nous résumer, vous dites si c'est correct ce que je vais vous dire. Alors, c'est une sorte d'immersion dans le Grand Nord, mais ça se passe en Ariège. C'est moins loin, mais c'est aussi bien, voire mieux.
Eh ben, c'est la Laponie à moins de 2 heures de chez soi quand on est dans le midi toulousain, on va dire. Voilà. Après, on ne fait pas semblant parce que quand la tempête, comme on vient de le vivre, c'est le Grand Nord. Quoi. On sent la force des éléments.
Bon, très bien. On peut faire ça à partir de quel âge ? Quand vous avez parlé de famille, on peut y aller avec des enfants qui ont quoi ? Un peu plus de 6 ans ? Quelque chose comme ça.
Alors, le programme est adapté à partir de 6 ans. Bon. Effectivement, on ne prend pas des enfants plus jeunes parce que, comme je vous le disais, quand ça barde, c'est compliqué.
Bon. Et c'est à s'y tromper. Je crois qu'on a tout compris. Merci beaucoup, Isabelle. Bravo.
Avec grand plaisir.
Bonne initiative. Je vous souhaite une excellente journée. Je ne peux pas vous souhaiter plus de neige parce que vous en avez déjà suffisamment.
Voilà, je retourne avec mes chevaux parce que là, on va faire de l'attelage. On démarre l'attelage demain, avec les chevaux de Mérin.
Eh bien, je vous souhaite une excellente année avec beaucoup de clients. Voilà, bonne journée.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, le prix de l'expérience, là, c'est quoi ? Elle a dit, Isabelle, un jour et demi ?
Un jour et demi, alors de l'arrivée le jour 1 à 13h30 jusqu'au jour 2 à 17h, ça coûte 176 €.
C'est le prix d'une chambre dans un hôtel de
complètement. Alors là, c'est par personne quand même. Et 176 € par adulte, par personne. Et moins cher pour les enfants, bien sûr, 131 €. Mm-hmm. Et si vous avez envie de ne faire qu'une sortie en raquette ou d'apprendre à construire un igloo ou de tenter le traîneau à cheval, c'est possible aussi. Et c'est bien sûr beaucoup moins cher. Tout ça se fait à la carte et tous les prix sont sur le site internet europe1.fr.
Est-ce qu'on a le temps ? On n'est pas trop loin. Est-ce qu'on peut trouver, je ne sais pas, des produits locaux dans le coin, ou alors c'est le Grand Nord, quoi.
Non, on va pouvoir. Alors on va peut-être mettre les pneus neige, mais on va pouvoir aller à la boutique de la ferme à Ax-les-Thermes. C'est pas très très loin, avec que des produits de producteurs locaux, des fromages comme de la tomme, bien sûr, de la charcuterie et le fameux hypocrase qu'on buvait déjà au Moyen Âge et qu'on produit encore en Ariège.
Hypocrase, ça s'appelle.
Hypocrase, vous savez, cette boisson au miel, c'est délicieux. Et il propose même une petite visite de la ferme une fois par semaine avec causerie à la boutique et dégustation.
Mais c'est plein de choses alors.
Ouais.
Mais j'aime bien parce qu'ils trouvent. Ils ont fait des ateliers pédagogiques, ça me plaît bien ça.
Ça vous plaît ?
Non, parce qu'on apprend des choses une fois qu'on est sur place, on n'est pas là à rien faire, à regarder la neige.
C'est la boutique de la ferme à Ax-les-Thermes.
Bon, allez, on termine avec un récapitulatif de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui.
Alors, nous avons visité le domaine du poète ferrailleur dans le Morbihan. Nous sommes allés aussi dans la forteresse de Sals. Ça, c'était dans les Pyrénées orientales.
Ça, c'est étonnant, parce que vous n'en avez jamais vu une comme ça. Même Vauban, il en était jaloux.
Oui, exactement. Nous avons découvert des bonbons aux fleurs dans une confiserie ancestrale dans les Alpes-Maritimes.
Alors, nous avons reçu quelques éléments.
Oui, et William a fait plus que découvrir les bonbons aux fleurs.
Mais c'est incroyable. Les bonbons aux fleurs, je ne connaissais pas ça.
Et, et nous avons même vécu une expérience de trappeur avec Isabelle, au cœur de la Laponie ariégeoise, grâce à Angaka.
Alors, pour terminer, comme on le fait régulièrement dans cette émission, une idée de film, de livres, d'expositions qui parlent de la France, bien sûr, puisque c'est ça notre fond de commerce, après tout.
Eh bien, j'ai trouvé un beau livre sur la boulangerie, il n'y a pas plus français, et réalisé par Frédéric Lalos, c'est le meilleur ouvrier de France, avec les confinements successifs, eh bien, les Français se sont mis à faire leur propre pain. Eh bien, ce livre, il vous donne des recettes pour changer un peu de l'ordinaire, et il vous montre pas à pas comment les exécuter. Alors, on a la recette du pain de campagne traditionnel, bien sûr, mais il y a aussi des pains un peu plus originaux. Alors, moi, j'ai bien aimé celui pain lardon pruneau abricot. Oui. Ça tient bien encore. Il y a aussi la mode du pain sans gluten. On retrouve la recette dans ce livre. Il y a le pain au chocolat, bien sûr, on l'oublie parfois. Et c'est plus qu'un livre de recettes, c'est aussi l'histoire du pain et de la boulangerie en France. Et avec de superbes images, vraiment, c'est un très très beau livre. Ça fait plus de 400 pages. Ouh. Ça s'appelle tout simplement...
Ah bon? Ouais, 400 pages. C'est pas le petit magazine.
Ah non,
là,
c'est pas le petit magazine, c'est le livre que vous mettez sur la table basse ou dans la bibliothèque que vous consultez ou dans la cuisine pour avoir la bonne recette. Ça s'appelle La Boulangerie et c'est paru chez EPA.
Alors, l'émission est maintenant terminée, mais on se revoit dans une semaine. Merci à Marie Jacquet, Christophe Pierrot, Daniel Moreau, Morgane Biquillet et Gavin Clément-Terruiz. Quant à nous, on se retrouve samedi prochain. C'est à 15h, je vous le rappelle. Quand même, notez bien ça dans l'agenda. L'agenda de 2022. Oui, on y est là. Je vous souhaite une bonne année de nouveau. Et on partira la semaine prochaine, comme d'habitude, à la découverte de 4 nouveaux sites, 4 lieux différents que vous ne connaissez peut-être pas. Bon après-midi sur Europe 1.